C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous visitons ensemble le monde de la santé. Oh, pas le classique parcours des pathologies communes, non. Nous allons feuilleter le catalogue des maladies incongrues. Sortez vos stéthoscopes et prenez des notes. L'étrange bipède qui arpente le globe terrestre développe parfois de bien étranges et mystérieuses pathologies. Sachez pour commencer que tout ce qui est évoqué dans cette chronique est absolument authentique. Avant d'égrener toutes ces histoires de patients bizarres compilées pour pas mal d'entre elles dans le magazine Futura, rappelons-nous que vous comme nous sommes venus au monde sans rien, faibles, sans argent ni bien matériel, et que quelqu'un nous fit notre première toilette. C'est de la même façon, sans rien, laissant ici-bas argent, bien et proche, que nous quitterons ce monde après une toilette dont quelqu'un se chargera. Retrouvant parfois au soir de nos vies le besoin qu'on nous aide à marcher et qu'on nous aggrave des couches comme à nos premiers jours, nous aurons, entre ces deux étapes, connues ou pas, l'amour, la richesse, la gloire, la santé ou la maladie. Maladie, parlons-en. Nous en connaissons des cruelles qui frappent sans égard pour l'âge, le sexe ou le mérite, mais il en est de bien étranges qui sont l'objet de cette chronique. En 1997, une dame se met à entendre des voix. Ce n'est pas la première fois. Déjà, en 1984, un couple travaillant au Children's Hospital de Londres l'avait contactée, si l'on peut s'exprimer ainsi, et lui avait donné des précisions sur des choses qu'elle était seule à connaître. Elle avait consulté et on avait diagnostiqué des troubles psychotiques et après un traitement médicamenteux, les voix s'étaient tues. Mais voici qu'à présent, cela recommence. Et elle est priée par ses curieux interlocuteurs de se rendre d'urgence à l'hôpital dont ils lui ont soufflé l'adresse, et plus précisément à la section imagerie médicale. Et surprise, le scanner rend son verdict, il y a bien une tumeur de 6 cm sur 3. Après opération réussie, les voix s'expriment une dernière fois et lui avouent qu'elles sont contentes qu'elles soient guéries et lui disent au revoir. C'est la dernière fois qu'elle entendra ce que certains ont nommé des hallucinations auditives. Il y a d'autres cas surprenants de patients. En février 1936, un homme, Gaby Delannoy, se met à entendre dans sa tête les émissions de radio, alors que le poste est éteint pour cause de panne. Devant l'incrédulité de Solange, son épouse, puis sa colère, car elle imagine qu'il se paie sa tête, notre malade récite les bulletins d'information, les résultats sportifs, tout le programme de radiodiffusion que ne peut diffuser le poste muet. Comme cet état de choses dure, qu'il en vient non seulement à se disputer avec madame, mais également à perdre son travail pour cause de fatigue et d'inattention, il consulte en vain un neuropsychiatre et vit un véritable enfer. Lorsque le poste radio du domicile tombe définitivement en panne, il profite de sa visite à un réparateur pour évoquer son problème. Cette radio qui sort de son crâne, sauf lorsqu'il bâille ou ouvre grand la bouche. Il a la bonne fortune de tomber sur la bonne personne qui lui demande s'il a des fausses dents. Bingo! Deux dents en or, l'une à la mâchoire supérieure, l'autre juste en face à la mâchoire inférieure. En fermant la bouche, les dents viennent à se toucher, produisant un léger courant nommé l'effet de pile et font office de capteur de l'émetteur TSF de la tour Eiffel proche du domicile du couple. Les os de la mâchoire diffusant le son jusqu'à l'oreille interne. Une histoire extraordinaire dont Pierre Belmar nous régala en son temps.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
C'est une patiente qui ne peut fermer l'œil car elle se plaint de bruissements et de cliquetis dans son oreille, d'où l'on extraira une araignée et son exosquelette, l'animal ayant trouvé dans le conduit auditif externe un abri chaud et l'obscurité qui lui convenait pour s'y loger et muer en toute tranquillité. La présence d'arachnides dans ces lieux est plutôt rare, mais des fourmis, des papillons de nuit et des cafards peuvent s'y rencontrer. Jamais l'expression « avoir une araignée au plafond » ne s'était aussi bien appliquée. Rare également ce que l'on nomme une affection tuberculeuse cutanée en oreille de dinde qui affecta une patiente israélienne, son oreille présentant une boursouflure d'une teinte brun jaunâtre avec la consistance d'une gelée de pommes cuites. Un traitement permit d'en venir à bout. Incroyable également cette mésaventure survenue à une Australienne. Elle se plaint de douleurs variées et inquiétantes telles que des douleurs abdominales, des sueurs nocturnes, de la toux sèche et des diarrhées. Traitée sans succès pour pneumonie, elle rajoute à ses malheurs du diabète, de l'hypothyroïdie et une grave dépression. On la soumet à un IRM qui détecte une lésion dans le lobe frontal droit et on découvre que se tortille dans son cerveau un ver de 8 cm. Comment a-t-il pu arriver là ? La patiente vivait au bord d'un lac fréquenté par des serpents pitons qui hébergent ces vers et rejettent leurs œufs dans la nature. Notre malade, cueillant des plantes au bord de ce lac, a probablement, en ne se lavant pas les mains ou en consommant ces plantes, ingéré des larves qui, en réaction au traitement suivi par cette dame, ont migré vers son cerveau. Après des soins adaptés, elle fut guérie avec cependant quelques séquelles neuropsychiatriques. En Californie, c'est une joggeuse qui, pratiquant son sport favori en campagne, se trouve dans un nuage de mouches du fait de la présence de chevaux et de bovins, en écrase quelques-unes sur son visage et se retrouve quelque temps plus tard avec 4 vers qu'on doit lui extraire des yeux. En Suisse, c'est un journaliste hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral qui se plaint de la médiocrité de la nourriture de l'hôpital, ce qui est assez classique, mais qui développe une étrange obsession pour la nourriture de qualité et la gastronomie, au point qu'il sature un carnet de notes exclusivement consacré à des observations culinaires. Atteint de ce qu'on appelle le syndrome du gourmand, à peine rétabli, lui, qui n'était passionné que de politique et que la nourriture indifférée, va devenir critique culinaire. Lors de dommages à l'hémisphère droit du cerveau, si les pertes de mémoire et les problèmes de motricité s'estompent après la rééducation, les obsessions pour la nourriture, lorsqu'elles surviennent, elles persistent. Ce syndrome est apparu également chez un enfant de 10 ans, avant chaque crise d'épilepsie dont il était victime, en dépit de médicaments censés les prévenir. En revanche, c'est l'abus de bonbons à la réglisse qui entraîna un arrêt cardiaque fatal pour un Américain car ses friandises contenaient une substance toxique même à petite dose, la glycyrrhizine, qui provoque entre autres une rétention d'eau et une hypertension artérielle. Tout aussi problématique fut le cas de cet adolescent de Bristol, se nourrissant depuis l'âge de 7 ans exclusivement de chips, saucisses, frites et sandwichs au jambon, au point à 17 ans d'y laisser la vue et l'ouïe, pour cause de carences multiples ayant entraîné entre autres la destruction de son nerf optique. La malnutrition due à la junk food a fait son œuvre, et ce n'est pas l'obésité qui a frappé, mais la fatale carence en vitamines. Puisque nous évoquions l'épilepsie, il y a le cas étrange de ce policier de 46 ans, victime de crises de ce type, et frappé du syndrome d'hyperfamiliarité, qui lui donne l'impression qu'il connaît toutes les personnes qui croisent son chemin, leur distribuant du bonjour à la profusion, ajoutant « D'où est-ce que je vous connais ?» Cette impression, en moins accentuée, il la ressentait face au visage sur l'écran de télévision. En revanche, les voix ne lui rappelaient rien. Il était régulièrement frappé de tristesse et n'avait plus souvenir de rendez-vous médicaux récents. Crise d'épilepsie ayant entraîné des lésions du lobe temporal gauche, tel fut le verdict pour ce cas qui n'est pas unique. Dans un registre voisin, cet octogénaire avait l'impression d'avoir déjà vécu tout ce qui arrivait. Des nouvelles aux matchs de football en passant par les scènes de rue. C'est un jour sans fin en permanence. Aucun traitement ne put soigner cette pathologie. On l'accompagna juste dans une acceptation d'un mal incurable. Un cas extraordinaire de perte de mémoire frappa une célébrité. Le 24 décembre 1952, un jeune charpentier de 16 ans, Marius Renard, fait une chute sur un chantier depuis un échafaudage. Le chirurgien qui l'opère lui enlève un rein, sévèrement touché, ignorant que son patient n'avait qu'un rein. Pour éviter une mort inévitable, deux néphrologues et un urologue vont tenter une greffe en utilisant le rein de la mère de l'accidenté, ce qui non seulement est une première, mais encore à l'époque est interdit par la loi. La greffe réussit, la presse ne tarit pas d'éloges. Hélas, le greffé 21 jours plus tard ne survivra pas et mourra même dans des souffrances atroces. En 1953, l'un des deux néphrologues est opéré pour une tuberculose et refusant l'anesthésie, dirige lui-même l'opération. À l'issue de cette dernière, il ne reconnaît plus sa famille et va l'abandonner brutalement et durant 50 ans ne répondra pas aux lettres de sa femme. En agissant ainsi, il brise les liens avec ses deux fils et sa fille. L'un des deux fils, traumatisé par cet abandon alors qu'il n'avait que 8 ans, réussira comme auteur, compositeur, chanteur et refusera de garder le nom de famille de son père. Ainsi, Michel Hamburger, né de Jean Hamburger, médecin mondialement reconnu, et de Annette Haas, pianiste concertiste, deviendra Michel Berger. 6 mois après la mort de son père, survenue le 1er février 1992, Michel, victime d'une crise cardiaque à l'issue d'une partie de tennis à Ramatuelle, le rejoignait dans la tombe. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous poursuivrons lors de notre prochaine rencontre l'inventaire de ces bizarreries médicales.
Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et puis mes longues insomnies. Quand vient le jour, la peur d'affronter la vie, il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant ton paysage. Pour me comprendre, il faudrait la connaître mieux que je ne pourrais. Elle aimait plus que moi, et je lui dirais que je n'y crois vraiment pas. Pour me comprendre, il faudrait avoir rencontré l'amour, le vrai. Vous comprenez le grand amour, et savoir qu'après, à quoi sert de vivre encore.